continent. Penaï Traoré.
Imaginez une flotte navale de 2000 bateaux lancés sur l'océan à la découverte de ce qu'il y a de l'autre côté, l'Amérique. C'est pourtant ce qu'aurait fait l'empereur mandingue Aboubakari II en 1312. 180 ans donc avant Christophe Colomb, resté dans l'histoire comme celui qui a découvert l'Amérique en 1492. Si Aboubakari II est méconnu, c'est parce que son expédition n'est jamais revenue. Mais dans les années 2010, des universitaires et historiens africains, dont le Sénégalais Paté Diagne et le Malien Gaoussou Diawara, ont questionné cette histoire à travers des ouvrages. Qui est cet empereur mandingue? Que sait-on de son départ vers les Amériques pour explorer les limites de l'océan? Aurait-il pu changer l'histoire du monde? Nous nous intéressons ce dimanche à cette aventure incroyable d'Aboubakari II. Bonjour et bienvenue dans Afrique, mémoire d'un continent, votre magazine qui vous raconte l'Afrique par elle-même et dans le courant du monde. Deux invités nous accompagnent pour nous raconter l'histoire de l'empereur explorateur mandingue Aboubakari II. Bonjour Jean-Yves Loude.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur Aboubakari II, justement, le roi d'Afrique et la reine mère, MER. Également avec nous, Mamadou Diaban. Bonjour.
Bonjour, Madame Traoré.
Vous êtes docteur en lettres et vous avez soutenu une thèse sur Aboubakari II, intitulée « L'épopée de Bakari II, approche littéraire de la chronique historique du roi perdu de l'empire médiéval du Mali ». On dit Aboubakari II, Bakari II, Boukari II, on trouve différentes variantes.
Si on se réfère à l'historiographie moderne, c'est Bakari II parce que les ethnologues, les historiens africains, les traditionnalistes africanistes qui se sont intéressés à la geste du Mali, Bakari II vient de Faboukari. Il porte le nom de son grand-père qui est Mandingue Boukari. On l'appelle Faboukari.
Qui veut dire père Boukari en mandingue.
C'est ça, en mandingue, par respect de son ancêtre. Et les historiographes modernes ont adopté l'écriture ou l'appellation Bakari II.
Tout au cours de cette émission, on entendra peut-être les différentes variantes Aboubakari II ou Bakari II. Il s'agit bien du même personnage. Merci pour ces précisions, Mamadou Diaban. Jean-Yves Loude, dites-nous qui est cet empereur africain mandingue qui avait soif de découvrir les limites de l'océan?
Tout d'abord, il faut dire que moi, je ne connaissais strictement pas cette histoire. Personne ne me l'a enseignée à l'école, personne ne m'en a rien dit. Il a fallu que je rencontre un professeur de sciences politiques camerounais, le prince Koumadoubé III, qui est prince Bélé-Bélé de Douala. C'est lui qui m'a dit, toi, homme du Nord, je suis sûr que tu crois que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais l'histoire est peut-être différente. Et dans une lettre qu'il m'a adressée, il m'a révélé cette histoire du voyage de Kankoumoussa vers la Mecque pour le Hajj, passant par le Caire, il a des conversations avec le sultan du Caire, le sultan d'Égypte, et avec le fils du sultan, et c'est au cours d'une de ces conversations que le fils du sultan demande à Kankoumoussa, l'empereur du mandingue, comment êtes-vous arrivé sur le trône du Mali? La réponse est étonnante, parce que Kankoumoussa dit, si moi, l'empereur du Mali, je suis sur le trône, c'est parce que celui qui était avant moi, le nom n'est pas précisé dans l'entretien, ne croyait pas que la mer des ténèbres, c'est ainsi qu'on appelait l'océan Atlantique, était sans limite. Vous savez, au XIVe siècle, puisque cette histoire se passe au XIVe siècle, le voyage de l'empereur Kankoumoussa, c'est 1324, on pouvait croire que l'océan Atlantique d'aujourd'hui tombait, chutait à la fin de l'horizon comme une cascade. Donc, Kankoumoussa dit non, mon prédécesseur pensait qu'il y avait quelque chose.
Justement, concernant ce que Kankoumoussa, qui a fait l'objet d'une émission dans Afrique Mémoire d'un continent d'ailleurs, ce qu'il aurait dit au roi de l'Égypte, au Caire, je vous propose qu'on l'écoute.
Au fils de l'ami Hadjib, sultan du Caire, Kankoumoussa aurait dit, nous appartenons à une famille dans laquelle le pouvoir s'hérite. Celui qui était avant moi ne croyait pas que l'océan Atlantique était impossible à franchir. Il voulut parvenir à son extrémité et se passionna pour ce projet. Il équipa 200 embarcations qui étaient pleines d'hommes et autant qui étaient remplis d'eau et de provisions de quoi faire face à plusieurs années. Il dit alors à ceux qui étaient préposés à ces embarcations, ne revenez qu'après avoir atteint l'extrémité de l'océan ou si vous avez épuisé vos provisions et votre eau. Ils partent. Leur absence se prolongea. Aucun ne revenait alors que de longues périodes s'écoulaient. Enfin, retourna une embarcation, une seule. Nous interrogeâmes le chef sur ce qu'il avait vu et appris. « Bien volontiers, ô sultan, répondit-il. Nous avons voyagé jusqu'au moment où s'est présenté en pleine mer un fleuve au courant violent. J'étais dans la dernière des embarcations. Les autres s'avancèrent et disparurent. Nous n'avons pas su ce qui leur advint. Moi, je reviens de cet endroit-là sans m'engager dans ce fleuve. » Le sultan repoussa son explication. Il fut préparé 2000 embarcations, 1000 pour lui et ses hommes qui l'accompagnèrent, et 1000 pour l'eau et les provisions. Ensuite, il m'installa comme son remplaçant, s'embarqua avec ses compagnons sur l'océan et partit. Ce fut la dernière fois que nous le vîmes, lui et ses compagnons, et ainsi je devins seul maître du pouvoir.
Jean-Yves Loude, la lecture que nous venons d'entendre est la seule pièce écrite sur Aboubakari II par le scribe et historien égyptien Al-Omari, publiée en 1342 dans son encyclopédie. Vous avez eu accès à ce texte ?
Oui, mais le texte, il a été traduit en français dès 1927, donc nul n'était censé, dans la recherche, l'ignorer. On connaît ce texte depuis toujours et la traduction française existait, sauf que personne n'en a jamais parlé. Il a fallu donc que le professeur Koumadoumbé m'en parle et que je me rende compte que personne ne voulait en entendre parler. L'encyclopédie d'Al-Omari, parue en 1340, c'est-à-dire pratiquement à l'époque où les faits ont été vécus, elle a servi pour tous les savants parisiens de l'école des hautes études. Tout le monde s'est servi à piller cette encyclopédie pour écrire des livres très très savants, très puissants sur l'histoire médiévale du Mali. Mais à une exception, la page que nous venons d'entendre, elle a été mise à la poubelle.
Aucun historien ne s'est intéressé à cette page, à ce qui y est écrit.
Tout le monde s'y est intéressé, mais pour dire que c'était l'oralité africaine avec ce geste dédaigneux de repousser cette idée. Ça ne rentrait pas dans la vision idéologique des savants. L'Afrique ne pouvait pas avoir fait ça. C'était un préjugé, un prépensé, donc ça a été écarté. Quand on s'est mis à chercher dans le début des années 90 sur cette histoire-là, on a trouvé, mais même des savants qui ont pignon sur rue, des arguments complètement incadavrasantesques, comme on dit, pour justifier que les Africains n'ont pas pu, n'avaient pas la connaissance de la mer, que c'était peut-être de la vantardise de Kankou Moussa. Bref, ce qui nous a suscité l'envie de partir enquêter, c'est parce que les scientifiques ne voulaient pas vérifier une information. Or, être scientifique, c'est vérifier une information. Personne ne voulait entendre que cette expédition pouvait avoir un fond de vérité. Voilà ce qui nous a poussé à partir en 92 et 93 sur les traces d'Aboubakari II, du Sénégal jusqu'à Conakry, en passant par tous les collèges du Bandung. C'est pour faire acte d'actes scientifiques de vérification.
On imagine que la question des sources se pose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les sources orales, surtout concernant les époques très anciennes de l'Afrique. Mamadou Diabon, vous êtes auteur d'une thèse sur Aboubakari II. Est-ce que vous avez eu du mal d'abord à trouver des sources? Ensuite, comment ces sources se matérialisent-elles?
On peut diviser les sources concernant le personnage épique de l'Empire médiéval du Mali en trois catégories. Il y a d'abord les sources orales mandingues, des griots, qui sont des dépositaires transitaires de la tradition orale, qui transmettent de génération en génération. Il y a aussi les sources arabes, M. Loud l'a évoqué tout à l'heure avec Aomari et Ibn Battuta. Il y a aussi des ethnologues africanistes comme Pate Diagne et certains africanistes afro-américains comme Ivan Certina qui ont fait des recherches. Pate Diagne a publié un ouvrage sur Bakari II. À travers ses recherches linguistiques, ce qu'il nomme l'archéologie linguistique, pour établir l'antériorité des relations linguistiques et historiques et religieuses entre l'Ouest africain et les populations amérindiennes. Et à partir de là, Moi, quand j'ai voulu travailler sur Bakary 2, je me suis d'abord confronté à la disparité de ces sources. Il fallait aller, par exemple, à Dakar. Je suis allé en Gambie pour consulter voilà, le spécialiste des récits des grandes familles gambienne répertoriée dans un centre de recherche des traditions orales. Je rappelle que moi, je suis un littéraire. J'ai consacré un regard littéraire sur la geste de Bakary 2.
Afrique, mémoire d'un continent.
Abou Bakary II, est-ce qu'on a des informations sur sa vie, sur son règne? Qui était-il avant d'entreprendre ce voyage sur l'océan, Jean-Yves Loud?
Alors non, on n'a rien. Il ne faut pas se cacher la réalité, on n'a rien. Et c'est justement ce que l'on voulait savoir en partant enquêter. Alors, notre expédition qui a eu lieu en 93 était composée de Viviane Lièvre, ma femme, qui est ethnologue comme moi, et d'un fils de l'Afrique, Momar Talandiaye, malheureusement que nous avons perdu, mais qui était metteur en scène et comédien sénégalais, Wolof. Et pour bien montrer au papa, aux vieux, aux directeurs de musée, aux griots, que nous ne venions pas avec une seule curiosité de Toubab, mais qu'un fils de l'Afrique partageait notre curiosité, notre volonté d'éclaircir cette histoire. Donc nous sommes allés voir les griots. Bien sûr que la quête était difficile. Un griot ne va pas donner des informations à celui qui passe comme ça. Mais je vais juste vous raconter une anecdote avec un griot de Gambie,
oui,
de Banjul, qui est très révélatrice de cette histoire-là. On l'a vu en 92 et on revient le voir en 93 une seconde fois. Et cet homme va nous dire, vous qui venez de loin pour poser une seule question, pour me poser une seule question, je me dois de répondre. Et il l'a dit, je vous aime bien. Alors je vais vous dire quelque chose et je pense que peu vous diront plus que ce que je vais vous dire. Ce roi qui est parti en mer, oui, je le connais, mais je ne vous en parlerai pas. Imaginez-nous, nous sommes les griots. Nous sommes là pour chanter les louanges des vainqueurs sur les champs de bataille. Or, ce roi du Mali, qui est parti en mer avec ses équipages, ses griots, ses soldats, l'or, les femmes, la nourriture, et qui disparaît à l'horizon pour ne jamais revenir, c'est un naufrage dans l'histoire, et nous, les griots, nous refusons d'en parler. Et sachez bien que chez nous, il y a des secrets qu'il vaut mieux enfermer dans un mouchoir de femme et bien enfoncer dans la poche. Et nous a-t-il dit encore, il y a des gens qui parlent trop en Afrique et ceux-là, nous avons le moyen de leur élargir la bouche s'ils parlaient trop. Donc nous étions prévenus que ce roi d'Afrique, il ne rentrait pas dans la volonté des griots d'en parler parce qu'il n'était pas revenu et qu'il avait en plus fait évader l'or de l'État. L'or, c'est une substance vivante au Mali, ça a une âme. Et donc, il avait gaspillé cet or du Mali pour une entreprise et une expédition dont il n'est pas revenu. Donc, on a su d'emblée qu'on aurait toutes les difficultés du monde à obtenir de la part des griots une information. Soit l'information était très secrète et elle ne serait jamais divulguée, soit il y avait une méconnaissance de cet empereur-là. Vous savez, en Afrique et surtout au Mali, on dit que celui qui a décidé de tricoter un pagne pour couvrir la nudité des fesses de l'éléphant, celui-là s'attend à faire un gros travail.
Mamadou Diaban, après tout ce que Jean-Yves Loud vient de nous expliquer, pourquoi va-t-il se lancer au Abou Bakary II? Est-ce que c'était commun à cette époque-là de se lancer dans un tel projet?
Pour expliquer les raisons qui ont sous-tendu un peu l'envie, la volonté de découverte au-delà de l'océan Atlantique par cet empereur Alpha Bukhari. Donc disons que de Sundiata jusqu'à Marijata, disons que ses prédécesseurs, et sur le trône du Mandé, s'étaient imposés sur les routes des savanes, des forêts et des déserts, sur l'espace de la guerre, sur le plan des conquêtes territoriales. Mais lui, Alpha Bukhari, rêvait d'inscrire ses actes dans les pages jusque-là ignorées de ses contemporains et qui dévoileraient les richesses des espaces maritimes en tant que moyen de communication. Disons que déjà sur le plan traditionnel sur le plan religieux. Il y avait une prémonition à sa naissance, parce qu'on dit que sa mère, avant de se marier à son père, venait des terres occidentales de l'Afrique, c'est-à-dire des terres guinéo-gambiennes, ce qui pourrait, de manière prémonitoire, justifier l'envie de Babukari de délaisser la tradition guerrière mandingue pour aller vouloir établir une connexion, une découverte de ce qui est au-delà de l'océan Atlantique.
On comprend donc qu'il n'avait pas ce qu'on pourrait appeler la fibre guerrière des rois, des empereurs de l'empire mandingue. Il était plutôt penché sur l'exploration, aller sur la mer, aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Jean-Yves Loud, vous qui avez effectué une sorte de voyage enquête sur les traces de l'histoire d'Aboubakari II dans votre ouvrage « Le roi d'Afrique et la reine mère », qu'est-ce que vous avez pu découvrir sur place, sur lui, au-delà de ce que vous avez pu soutirer au griot ?
Une des hypothèses qui est avancée, c'est qu'il est vrai qu'Aboubakari II était soumis à l'obligation de faire mieux que les autres. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Alexandre le Grand, d'aller toujours plus loin. Tous les ancêtres d'Aboubakari II avaient déjà tout conquis. Il lui restait la mer à conquérir. Ce n'était pas une mince affaire parce que c'est un continental, donc il n'est pas censé s'intéresser aux choses de la mer. Et en plus, on sait que c'est là que se situe le siège du divin. Donc tout était fait pour ne pas s'aventurer dans un monde aussi complexe et aussi dangereux. De toute façon, on a enquêté sur chez les Sérères, chez ceux qui sont les qui détiennent les pouvoirs de l'ouverture des mers, et ils nous ont tous confirmé que si cette histoire était un jour avérée, la réussite de l'expédition ne pouvait se faire que si Aboubakari II non seulement avait de bonnes pirogues, mais aussi avait de bons devins et de bons prêtres ouvreurs des mers. Ça, c'est indéniable. Mais nous, notre travail, ça a été de naviguer ou d'inspecter entre les tendances europocentristes et les tendances africanocentristes. Bakari II, c'est la même chose. On dénie la possibilité de réalité de cette expédition. Moi, c'est ce qui m'intéresse.
Vous avez parlé tout à l'heure des pirogues. Comment il a pu réunir tous ces moyens-là, toute cette armada-là pour y aller ? On parle de 2000 navires quand même, ce n'est pas rien.
2000 pirogues, ça ne fait que 2000 troncs pour faire des pirogues monoxyles taillées dans un seul arbre. Ça, je ne crois pas que ce soit l'argument économique qui soit vraiment dissuasif. C'est le fait de se lancer dans cet inconnu et pourquoi ça reste toujours l'énigme. Est-ce que Aboubakari II partait en exil ? Est-ce qu'il voulait, comme je l'ai dit, prouver qu'il était plus grand que ses prédécesseurs ? Est-ce que c'était un esprit curieux ? Et ça, c'est le monde occidental qui le refuse aux Africains d'avoir eu à l'avance l'idée qu'ils vont avoir 150 ans plus tard, au moment des grandes conquêtes portugaises. Donc, toutes ces questions ne sont pas encore répondues.
Vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent sur RFI, bien sûr. Si vous ne connaissez pas l'empereur navigateur mandingue Aboubakari II, c'est de lui que nous parlons ce dimanche, précisément de son départ pour le Nouveau Monde. Curieux et surtout désireux d'ouvrir son empire à ce monde inconnu, il abandonne son trône et entame une aventure exploratoire dont on sait très peu de choses, car l'expédition n'est jamais revenue. Aboubakari II et sa flotte se sont-ils perdus en mer ou sont-ils arrivés à destination ? Que sont-ils devenus ? C'est ce que nous tenterons de savoir en deuxième partie d'émission, tout à l'heure après le journal avec Mamadou Diaban, auteur d'une thèse sur Aboubakari II et l'ethnologue Jean-Yves Loud.
Afrique, mémoire d'un continent. Benaï Traoré.
Retour dans votre émission Afrique, mémoire d'un continent avec nos deux invités. Jean-Yves Loud, vous qui avez passé des années à mener cette enquête sur les traces de cet empereur dans plusieurs pays africains, en Gambie, au Sénégal, au Mali, en Guinée, est-ce qu'on a des informations sur le déroulement de l'expédition d'Aboubakar II après son départ ?
Non, on n'a aucune information. Gaoussou Diawara, l'écrivain qui a fait une très très belle pièce sur Aboubakar II, fait des projections littéraires sur le déroulement de cette expédition, mais on n'a vraiment rien qui puisse permettre d'en parler. Nous avons rencontré des griots, nous sommes allés à Kangaba, au lieu même le plus sacré du Mandingue, où il y a la case sacrée. On a salué le chef et on a posé nos questions, et en sortant des salutations avec le chef, nous avons rencontré un jeune Africain avec un pull sur les épaules, un peu touriste, qui était là, et parce que, comme on va à Lourdes, lui voulait voir la case de Kangaba. Et il nous demande ce qu'on fait là. On lui dit qu'on cherche la trace de l'empereur du Mali, Aboubakar II, parti en mer. Et ce jeune Kouyaté, il s'appelait Kouyaté, donc griot, de naissance griot, me dit « Ah !» Mais mon grand-père m'en parlait. Son grand-père griot lui parlait. Ça a été la première fois qu'on a su qu'un griot parlait à son petit-fils griot de cet empereur, c'est-à-dire lâchait le nom et lui racontait cette histoire. Laï Kouyaté, qui était professeur d'économie formé en Europe, nous a dit « Venez chez moi à Kouroussa, en Guinée, je vous attends et je vous emmène dans l'île de Fadama où il y aura le grand conseil des griots et je me fais fort qu'il parle pour vous. » Mais c'est moi qui négocierai. Nous sommes allés dans l'île de Fadama et là, ça a été le grand branle-bas de combat. Nous avons été en rapport avec le Belentigui dans la hiérarchie des griots. C'est vraiment le très haut griot. Et il nous a rien donné. Il n'a pas voulu nous parler quoi que ce soit de ce voyage. Néanmoins, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que le père de ce griot, de ce Belentigui qui nous a refusé toute information sur Aboubakar II, le père de ce griot a beaucoup travaillé avec Camara Lai, l'auteur de L'Enfant Noir, le roman le plus connu.
L'un des classiques de la littérature africaine.
Voilà. Ce grand Belentigui s'appelait Babou Kondé. Et si vous reprenez le livre de Camara Lai qui s'appelle Le Maître de la Parole, eh bien dans la postface, Babou Kondé, père du Belentigui qui nous a refusé la parole, raconte l'histoire et donne tout le lignage depuis Sunjata jusqu'à Aboubakari, qu'il appelle Aboubakari Filanan. Et il raconte cette histoire. Mais à part cette donnée où un griot accepte de dire que Aboubakar II a existé, pour le moment, personne n'a vraiment de trace de l'expédition. La seule chose que l'on peut espérer demain, c'est que des traces en Amérique du Sud, au Brésil ou au Mexique nous apportent quelques lumières sur cette expédition.
Mamadou Diaban, on comprend qu'il n'y a vraiment pas d'informations sur l'expédition. Par contre, on sait d'où il est parti. Il serait parti des côtes gambiennes.
Des côtes gambiennes, de Banjul ou de Rufisque, comme M. Loud l'a précisé dans son œuvre Le roi d'Afrique et la reine mère. Il faut dire que voilà, la censure concerne d'abord la vie et le règne de Bakary II, que les Yamakala, c'est-à-dire l'aristocratie des griots, se chinent à ausculter, et aussi l'aristocratie guerrière qui interdit tout aventurier, tout griot, tout généalogiste à évoquer le règne de ce Mansa qui aurait abandonné son peuple pour disparaître et laisser derrière lui l'Empire dans un autre état. Voilà. Ce qui justifie le fait que pendant 7 siècles, aucun dépositaire transitaire griot n'a osé enfreindre cette interdiction qui consiste à ne jamais évoquer la geste de Bakary II.
Selon ce que vous avez expliqué, Aboubakary II, il a été banni parce qu'il a abandonné son royaume pour partir. Son histoire souffre de cela. Que ça soit frappé du sceau du secret, en quelque sorte.
Moi, je ne sais pas s'il a été banni, personne ne peut le dire. Moi, je pense qu'il faut repartir de la page publiée dans Allô Marie. C'est un texte qui ne suscite aucun point d'exclamation de la part des auditeurs arabes. Personne ne s'étonne que l'homme très riche qu'est Kankou Moussa puisse dire une pareille chose, que le prédécesseur soit parti sur la mer pour explorer. Ben, ma foi, les Arabes naviguaient. Je crois que c'est les Européens qui ne veulent pas voir l'état de la navigation africaine et arabe au XIIIe et XIVe siècle. Ils n'ont pas envie de se poser la question. C'est juste une position idéologique. Moi, je pense très sincèrement que cette expédition a eu lieu. On a travaillé au Cap-Vert à la suite de cette enquête. On a eu beaucoup de témoignages de pêcheurs capverdiens qui se sont perdus en mer et qu'on a retrouvés sur les côtes du Pernambouc, certains morts, mais certains vivants. Donc, si on peut survivre à une traversée inopinée, une flotte bien préparée de 2000 barques, dont 1000 sont pour les provisions, à mon avis, les courants marins et les vents portent naturellement de Saint-Louis ou de Gambie jusqu'au Pernambouc, au Brésil. La technique, c'est absolument pas compliqué. C'est de revenir qui était compliqué. Et il faut reconnaître à Christophe Colomb d'avoir fait ce qu'on appelle la volta, c'est-à-dire de passer par une autre route au nord pour rentrer. Avant de partir, il est venu traîner dans ces régions-là, c'est qu'il avait dans sa tête la traversée en tête et qu'il est venu se renseigner auprès des marins noirs des possibilités de courant et de vent. Tout ça, ça s'est passé à une époque où l'on cachait aux autres, aux concurrents, les routes, les cartes, les bateaux, où on faisait plutôt des secrets que de la divulgation.
Afrique. Mémoire d'un continent.
Il y a quand même une interrogation, la question du retour. À ce propos, écoutons le chercheur sénégalais Raphaël Ndiaye.
L'hypothèse de la découverte à Boubacar Keïta de l'Amérique doit expliquer pourquoi n'y a-t-il pas eu de retour. Ceci, moi, me pose un problème. Qu'on soit parti, il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés par Evan Van Sertima. Qu'il soit arrivé, se soit installé, beaucoup d'arguments également. La maîtrise de la navigation qui leur a permis d'y arriver, pourquoi n'a-t-elle pas permis qu'ils reviennent? Ou bien est-ce que, une fois arrivé, le désir de retourner aux origines, ne serait-ce que pour rendre compte, ne les aurait pas habités? Ceci m'étonne beaucoup. D'autant que dans ces cultures, nous avons souvent un peu la culture du voyage. L'homme vaut parce qu'à un moment donné, il doit partir de chez lui, faire un grand voyage et revenir avec des biens. Donc, Aboubacar Keïta aurait dû ou renvoyer des gens ou revenir pour attester qu'il a bien été là-bas. Alors, ceci me semble être un point crucial dans l'argumentation qu'il faut clarifier.
Mamadou Diaban, est-ce que c'est une question que vous vous êtes aussi posée? Pourquoi n'est-il pas revenu?
Pour moi, les résultats de mes recherches, du fait que j'ai consulté pas mal de récits concernant les hypothèses de son départ et du non-retour. Cette hypothèse voudrait qu'il sait qu'il est l'objet d'un bannissement, d'une interdiction symbolique. Il sait que, voilà, il n'est pas le bienvenu, qu'on le considère comme un traître, comme un roi qui aurait abandonné l'aspect spirituel des religions traditionnalistes africaines pour asseoir une soif de connaissance qui est plutôt la connaissance de l'au-delà de l'Atlantique.
Jean-Yves Loude, vous avez écouté Raphaël Ndiaye. Est-ce que cette question de retour, c'est cela qui jette le doute sur l'accomplissement d'Aboubacar Keïta?
Si on reprend le texte, le seul bateau qui est revenu pour raconter à Aboubacar Keïta la première expédition, il parle d'un grand courant qui emporte les bateaux vers le large, ce qui correspond à la réalité. En revanche, c'est très facile d'aller d'Afrique de l'Ouest au Pernambouc, au Brésil ou dans le golfe du Mexique, mais c'est très 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 compliqué pour en revenir. Si on ne fait pas la volta par le nord, ça ne marche pas. Pour moi, c'est plutôt une difficulté technique. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Gaoussou Diawara, dans sa très belle pièce, parle d'une mutinerie qui aurait, parce que l'équipage, à force d'attendre de mois en mer, se serait mutiné. C'est l'hypothèse de Gaoussou Diawara. Et Aboubacar Keïta verrait la terre, mais n'y mettrait jamais les pieds. La deuxième solution, c'est qu'ils aient abordé et puis qu'ils aient eu soit des affrontements, soit une mixité avec les populations locales. Ne pas oublier quand même une chose très très importante, c'est que en 1515, donc pas tellement longtemps, Balboa et les Espagnols dans l'isthme de Panama voient des Noirs d'Afrique. Ils les appellent des Éthiopiens. À l'époque, les Espagnols savent ce que c'est qu'un Noir, un mort. Quand on dit Éthiopien, c'est un Noir d'Afrique. Et Balboa décrit, 1515, hein, il décrit que certains se battent contre les populations locales, que d'autres sont faits prisonniers. Ce qui veut dire que des Noirs d'Afrique sont déjà là, sont arrivés. Est-ce que ce sont les descendants des marins et des soldats d'Abou Bakar Diou ? On ne peut pas l'attester. Mais on sait maintenant qu'il y a eu des traversées inopinées, accidentelles, entre l'Afrique allant jusqu'en Amérique. On le sait maintenant.
L'expédition d'Abou Bakari II partie avec près de 2000 navires n'est jamais revenue, donc on ne saura probablement jamais si elle a atteint les côtes des Amériques. Mais cette hypothèse est peut-être envisageable. L'ouvrage du chercheur américain Ivan Van Certinap, They Came Before Columbus, soutient que l'équipage de Bakari II aurait bel et bien atteint l'Amérique du Sud. Je vous propose qu'on écoute ensemble Segrario Cruz Carretero, chercheuse à l'Institut d'anthropologie de l'Université Veracruz au Mexique. Sa spécialité est la présence africaine au Mexique. Écoutons ce qu'elle dit sur une probable influence africaine dans les temps précolombiens grâce à des sources archéologiques.
Des visages africains avec des larges nez, des grosses lèvres, des scarifications, qui sont une caractéristique propre à certains groupes africains. Et on peut identifier ce type de scarification sur certaines pièces archéologiques. De plus, nous avons des pièces archéologiques avec des cheveux très bouclés, crêplés, avec une coupe de cheveux singulière, avec des perles. Il y a aussi l'indice de la diastéma, l'écart entre les dents frontales supérieures et inférieures. Nous avons des peintures murales avec des personnages noirs. Cette couleur a été interprétée comme une pratique pour effectuer des rituels, que certains acteurs de ces rituels se peignaient le corps en noir. En réalité, ces personnages représentés sur les peintures murales ont des traits de morphologie faciale caractéristiques qui peuvent être la représentation d'Africains. Bien sûr, on ne peut pas savoir s'il y a eu une immigration massive d'Africains en Amérique centrale. Nous n'avons pas suffisamment de sites archéologiques pour affirmer qu'il y a eu des colonies africaines en Amérique centrale. Mais nous avons quelques échantillons de preuves qui autorisent à imaginer des arrivées accidentelles, des arrivées sporadiques.
Extrait du documentaire African Glory du réalisateur français Thierry Bugot qui revient sur l'histoire d'Abou Bakari II. Jean-Yves Loud, est-ce que c'est une thèse qui pourrait être possible?
Ivan Van Certinap fait des ponts un petit peu rapides. Il faut quand même remettre dans son contexte le livre d'Ivan Van Certinap dans les années 60.
Qui a fait quand même l'objet de beaucoup de critiques, voilà.
De lutte pour la gloire, de la fierté des Afro-Américains. C'est écrit dans un contexte. Donc il a le mérite d'exister et d'avoir éclairé la lampe rouge. Mais scientifiquement, il y a quand même des lacunes dans le livre de Ivan Van Certinap. Mais ce qui est indubitable, c'est qu'au XIVe siècle, à l'époque de l'expédition, on trouve au Mexique des têtes dans la société mixtèque. Et celles-là sont beaucoup plus troublantes parce qu'elles représentent vraiment des Africains avec effectivement la barbe et les cheveux crêplés. Et là, indubitablement, on peut dire que si on n'a pas le modèle devant les yeux, l'artiste ne peut pas l'avoir sculpté. Et c'est même le grand ethnologue Roger Bastide qui dit à partir de ces têtes-là, il va falloir quand même sérieusement se poser des questions parce qu'on a un indice de présence africaine sur le sol brésilien. L'indice irréfutable, c'est celui qu'on a trouvé au Brésil, dans le Minas Gerais. 11 500 ans, on a découvert les restes de 100 squelettes d'un peuple de chasseurs-cueilleurs. Le squelette entier d'une femme, et quand on a fait les analyses, eh bien tous ces chasseurs-cueilleurs et cette femme qu'on a appelée Lucia, puisqu'on l'a découvert en 1974, la même année qu'on a que Yves Coppens a découvert Lucie, Eh bien, ils sont tous négroïdes. Dolichocéphales négroïdes, c'est-à-dire comme si c'était un homo sapiens parti des côtes du Sénégal et arrivé au Brésil en moins 12 000, moins 13 000. Donc là, il va bien falloir se poser la question sur les premiers habitants d'Amérique du Sud et du Brésil, puisqu'il y a des traces humaines bien avant la possibilité d'émigration par le détroit de Bering. Et là, ce groupe de chasseurs-cueilleurs négroïdes découverts pas loin de la mer, eh bien, ils ne sont pas tombés du ciel. Alors tout ça, c'est très intéressant parce que ça n'apporte pas encore des preuves absolues, mais on sait qu'il y a eu des migrations fortuites, tout simplement pour la simple et bonne raison que les vents et les courants portent très très facilement de Saint-Louis du Sénégal au Pernambouco au Brésil. Donc là, il va falloir être sérieux et que les scientifiques occidentaux arrêtent de mettre en avant leurs principes idéologiques et admettent qu'il y a des hypothèses à construire sur les relations entre les continents et à l'époque médiévale aussi.
Mamadou Diaban, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait peut-être des possibilités que d'autres peuples, peut-être africains, aient pu effectuer le voyage de l'autre côté de l'océan avant Aboubakar II ?
Déjà avant cette assertion de Ivan Certinan, il y a eu le travail et l'ouvrage de Patégagne qui a mené des enquêtes, une certaine recherche archéologique qui a abouti à la publication d'un ouvrage « L'archéologie transatlantique et présence africaine outre-Atlantique » où M. Diagne établit partie d'une onomastique, une parenté linguistique entre les langues amérindiennes et le malinké. Il a même poussé la curiosité à justifier la présence en Amérique latine par l'apport de la culture et de la civilisation malingue outre-Atlantique, voilà, en s'appuyant sur l'œuvre de Bakary II.
Rapidement, Jean-Yves Loud, peut-on penser qu'il y a eu une volonté que les choses restent telles qu'elles sont? Parce que réhabiliter et reconnaître Aboubakar II dans ce qu'il aurait fait, ça serait aussi mettre en doute la version officielle et connue de l'histoire, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. S'il était revenu peut-être de son expédition, Aboubakar II aurait-il pu changer l'histoire?
Tout à fait, si on considérait cette histoire scientifiquement, elle pourrait changer la vision de l'histoire. Il faut bien considérer que depuis 500 ans, l'histoire n'est écrite que d'une certaine façon et pas d'une autre. Et donc il faut qu'on sorte, et en Afrique, et chez les Noirs américains, et en Occident, il faut qu'on sorte de la bassine idéologique. Autrement, on ne progressera jamais dans la narration de notre histoire commune. C'est notre passé commun. Donc je crois qu'il faut qu'on en revienne à un débat mesurer où il n'y ait plus ni europocentrisme ni afrocentrisme, mais une volonté farouche d'écrire l'histoire de l'humanité.
On ne saura peut-être jamais ce qu'est advenu d'Aboubakar II et de sa flotte navale, ni même s'ils ont atteint leur destination, comme l'a fait Christophe Colomb. Qu'aurait été l'histoire du continent africain? A-t-il laissé des traces sur d'autres terres loin de son empire mandingue? Autant de questions sans réponse. Mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique semble dans une démarche de recherche et de reconnaissance de son passé et de ses figures historiques. Les sources orales africaines et l'archéologie ont sans doute encore tant de choses à dévoiler au monde sur cet empereur navigateur mandingue, afin de lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une partie de l'histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Nous étions avec Jean-Yves Loud, ethnologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur Aboubakar II, le roi d'Afrique et la reine mère. Et Mamadou Diaban, docteur en lettres et auteur d'une thèse sur Aboubakar II intitulée « L'épopée de Bakary II, approche littéraire de la chronique historique du roi perdu de l'empire médiéval du Mali ». Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Traoré.
Merci à toute l'équipe, Delphine Michaud à la coordination et Takim Fatraoré à la réalisation. Et quand vous le voulez, vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur l'application Pure Radio. Elgas sera au micro la semaine prochaine et moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Prenez soin de vous et très bon week-end à l'écoute de la Radio Mondiale.